ouais, c'est sur le premier point, sur l'organisation politique, quand on a parlé des ligues, comment ça se crée
Oui.
en dehors de ce qui existe déjà, les ligues nationales, etc. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on voit aux États-Unis avec la NBA qui finit de fermer, avec que seulement quelques clubs qui ont accès?
Oui, c'est deux phénomènes différents. Dans ce sens que une ligue telle que celle-là, c'est vraiment inspiré d'un sport purement spectacle, où l'enjeu, c'est le business du sport. On doit faire tourner ce business-là. Et on n'est pas très... La préoccupation première n'est pas le lien social avec la communauté, le club, l'identité. Ce n'est pas du tout l'enjeu. C'est le sport spectacle. Donc c'est un autre modèle, absolument différent. Et ce que voudraient faire notamment les clubs européens que j'ai cités là, et puis aussi l'influence de la privatisation saoudienne ou autre, c'est d'acheter une sorte de privatisation du sport. C'est d'aller dans ce sens-là et quitter complètement un modèle où le sport il est ancré d'une fédération à votre club local du territoire.
À Lyon, on a un petit peu ça parce qu'il y a la Parker Academy pour le basket
Voilà.
qui forme des jeunes en dehors du club pour qu'après ils jouent au niveau. C'est hors fédération, hors club et c'est privé. Donc c'est déjà un peu à notre porte, ce jeune. Pas dans tous les sports, mais.
Tu viens de m'éclairer sur mon quotidien.
Ah oui.
Je passe devant un salle commercial où il y a près de 3 salles qui viennent de s'ouvrir.
Ah oui, bah,
Et
les salles de sport aussi.
à quoi l'offre, et qui est très performante. Et je connais quelqu'un qui vit de ça. Il est à la
Oui.
fois qui est en centre de loisirs et puis il a le diplôme de sportif. Mais tu viens de m'éclairer parce que je m'aperçois que le classique organisation du sport, qui est la Fédération française de football, qui a 800 licenciés, devient. Alors c'est peut-être osé de ma part, mais c'est plus. 2000. Ouais, mais il y a 800 licenciés dans ma ville.
Oui.
Je m'aperçois que c'est plutôt. J'ai une lecture peut-être chrétienne, mais plutôt pour les pauvres. Je dis, c'est pas sûr, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se payer ces salles. Oui, ces salles, c'est réservé à des gens qui ont besoin de. Qui ont un temps réduit, qui veulent absolument se refaire une forme physique immédiate. Voilà. Et on a des mondes qui ne se rencontrent plus, quoi.
Oui.
Et tu viens de m'éclairer parce que je n'ai pas la réponse, mais je sens que c'est une des tendances aujourd'hui. Voilà.
Moi non plus, je n'ai pas la réponse. J'ai
Mais tu
j'essaie de poser des
éclairé sur
questions.
un quotidien que je vis.
Oui.
Qui achètent, qui louent le terrain, c'est ça?
Ah non, les salles, tu sais, c'est des gens qui louent 1 heure, 2 heures, 3 heures de coaching, tu vois, ou de ensemble. Hein,
Mais qui
parce
participent
que,
pas dans un
mais qui n'ont jamais
club.
participé à d'autres quotidiens qui est dans la même ville.
C'est ça.
Et qui est plutôt
C'est
issu de la fédération que tu as
tout le sport adulte d'entretien
Voilà.
qui se fait dans des salles et qui se fait un moins dans
Mais
les bâtiments.
ça n'est pas l'organisation de compétition
Ah non, non.
privée, tu vois.
Ah non. Par
Bah,
contre,
parfois,
ce que
ça
tu viens
existe.
d'écrire
Parfois, il y a des
au moment de
tournois dans des
l'inauguration.
salles privées. Absolument, ça
Oui.
existe.
Et
Absolument.
alors, tu m'as aussi éclairé parce que finalement, l'organisation classique du sport, la fédération, aide les gens à aller voir une autre ville, à se déplacer ailleurs. Donc, s'il n'y avait pas ça, bah, ils n'iraient pas voir ailleurs. Et donc, c'est plutôt classique, mais c'est plutôt, je dirais, missionnaire, ou je ne sais pas, c'est utile parce qu'on va aller voir autre chose.
Oui.
Voilà. Mais je me dis, tu m'éclaires ce.
Ok. Bah,
Voilà,
tant mieux.
pour ça.
Tant mieux. Oui.
J'avais une question. Tu fais partie du CIES.
S, exactement.
Tu peux expliquer ce que c'est?
Oui.
Combien il y a de gens à bosser là-dedans? Ils font quoi? Quel est le rapport avec la FIFA? Quel est le rapport avec les sportifs? Etc.
D'accord. Alors, le CIES, c'est Centre International d'Études du Sport, qui est une fondation financée par la FIFA. C'est une fondation qui est en partie. Il y a 4 membres, en fait. C'est le canton de Neuchâtel, donc le gouvernement étatique de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel, l'université de Neuchâtel et la FIFA. Donc, c'est 4 partenaires qui ont créé cette institution il y a 30 ans, presque 30 ans. Et la vocation de notre institut, c'est enseignement et recherche autour du sport, alors sur tout un tas de disciplines. J'ai des collègues qui sont économistes, géographes, des collègues juristes, des collègues sociologues. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Oui, voilà, c'est à peu près les domaines. Et puis, on dispense des différentes formations au niveau universitaire, au niveau formation continue également, partout dans le monde. Donc, on travaille en réseau avec des universités dans à peu près 20 pays. Et puis on donne des cours, on fait de la recherche, on écrit, et voilà. Je sais pas, ça répond. Ah, et puis on est une vingtaine, 25, je crois, à peu près, collaborateurs.
Et donc, les gens qui viennent suivre des cours, par exemple, ils sont financés comment?
Ça dépend des cours. Les cours, par exemple, moi je donne des cours en bachelor à l'université de Neuchâtel. C'est des étudiants qui sont inscrits à la fac, comme tout le monde. Et voilà, ils suivent mon cours sur l'organisation des événements sportifs. Donc ça, c'est le cadre universitaire classique. Après, dans différentes formations, plutôt au niveau post-grade, donc là, les masters, là, ça va être des financements autres. Ça va être plutôt un financement, je peux dire, pas privé, mais les frais d'inscription sont beaucoup plus importants que de s'inscrire à la fac. Et puis, dans un troisième espace, il y a tout le volet de formation continue. Et là, c'est des formations qu'on offre pour des personnes qui travaillent dans l'industrie du sport, dans les fédérations, dans les clubs. Et puis là, on dispense des formations continues. Et là, c'est plutôt les fédérations ou les organisations qui vont venir vers nous en disant « on aimerait un cours sur tel ou tel aspect » et puis on fait ça sur mandat.
C'est sur tous les sports, c'est pas que sur les coups.
Tous les sports, tout à fait.
J'ai subi une pression
oui.
Sur Betclic,
ah ouais.
Donc les paris sportifs.
Ouais.
Et autour de moi, mes amis dans le sport, enfin, la fédération, bon, je dépense jusqu'à 300-400 euros par mois.
Waouh. Ouais.
Moi, j'ai pas mis un sou, un seul jamais.
Mais oui, oui, oui.
Et je reste sans voix parce que je me dis, c'est le premier à se plaindre, donc ils n'y arrivent pas.
Et puis, bah.
Et donc une influence de. Et c'est vraiment développé depuis quelques années. Hein, ça.
Oui, c'est
récent.
Il n'y
a pas de recul du tout.
Non, non.
On dépense ça sans compter.
Pardon ? Alors, il y a ça, et puis.
Et le problème, c'est que ça détruit un peu les petits tournois. Parce que le pari sportif, c'est plus que sur les gros matchs.
Non.
Dans le tennis, ça se joue aussi sur des petits tournois et il y a beaucoup d'argent à se faire facilement.
Complètement. Et on peut parier sur tout et n'importe quoi. C'est pas juste le résultat d'un match de tennis.
C'est un peu le sport, quoi.
Oui. Et puis,
même au cours d'un match.
Pareil. Même au cours d'un match. Et puis les paris, les paris, c'est. Alors.
C'est très bête, hein, ça peut être tu perds le deuxième jeu de tel match.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir une faute là? On peut parier là-dessus. Ce qui donne aussi c'est là où ça ouvre une brèche éthique dans la pratique du sportif, de dire comment est-ce que je me comporte en tant que sportif. C'est surtout gênant. Gênant, c'est pas le bon mot, mais c'est un problème pour les sportifs qui sont professionnels, mais qui gagnent pas forcément des millions de Neymar ou autres. Les gens qui sont professionnels, mais qui ont de la peine à finir les fins de mois, on leur propose faites telle ou telle chose pendant le match, moi je vous file tant. Et petit à petit, vous êtes entraîné dans une logique vraiment tordue de la compétition. Et ça, pour moi, c'est un enjeu pastoral énorme parce que la pression sur les athlètes qui sont confrontés à ces questions-là, c'est une pression énorme. Oui.
J'avais une remarque pour rappeler que 1928, Amsterdam, Coca-Cola est déjà présent.
Tout à fait.
Non, donc c'est une longue histoire.
Tout à fait.
Donc, sur les paris sportifs, j'ai tendance à considérer que le ministère des Finances est ravi que les paris sportifs se développent. Sachant qu'à un moment donné, on a promis au club que grâce aux revenus des paris sportifs, il y aura un financement des clubs pour tous. Mm-hmm. Et que maintenant, vous avez l'Agence nationale du sport qui vous refuse des subventions. Parce que entre temps, il y a la manne financière des paris sportifs qui est passée dans d'autres...
circuit.
C'était juste de rappeler les enjeux économiques.
Et puis si je peux juste rebondir, là c'est les paris qui sont légalisés.
Oui.
On ne parle pas de l'effet des paris illégaux, c'est un marché
occulte.
Occulte et tellement énorme, on n'imaginait pas. Non, pas normalement.
Et puis, comme tu as la double culture américaine et
tout
française, comment on peut conjuguer le mot bénévole et le mot volontaire?
Parce
qu'on parle au niveau olympique, on parle de volontaire.
Ouais.
On ne parle pas de bénévole.
Ouais.
Comment tu...
La question sémantique entre bénévolat et volontariat, c'est vraiment pas la même chose. tout le modèle du sport d'organisation est construit sur l'a priori du bénévolat, c'est-à-dire je fais du bien. Le volontaire, j'imagine ça vient de la volonté, mais il n'y a pas forcément la même notion de faire le bien. C'est une excellente question.
Mais dans les deux cas, c'est bien gratuit.
Alors, c'est bien gratuit les deux, mais je ne suis pas sûr que le véritable sens soit le même.
Moi, je ressens qu'il y a une subtilité, mais oui. Que c'est passé dans le langage courant de dire, voilà, il y a les volontaires pour les Jeux Olympiques, et en même temps, voilà, il y a une dimension qui peut nous intéresser, nous, dans nos interrogations éthiques et pastorales,
de
l'engagement des jeunes.
Est-ce que le volontaire, il fait par sa propre volonté quelque chose, voilà, mais ça s'arrête là. Et le bénévole, c'est quelqu'un qui est dans un élan de faire le bien pour l'autre et pas seulement dans ma propre volonté comme volontaire. Je ne sais pas si ça c'est à creuser d'un point de vue étymologique, sémantique.
Oui.
Tout à fait.
Ça peut être une idée de master, de mémoire de master.
Peut-être, je vais le reprendre. C'est bien ça.
La petite question, c'est tout ce côté international. On est habitué sur la vie internationale à fonctionner avec l'ONU ou toute une série d'agences, etc. Mm. Comment ce monde du sport est en relation ou pas du tout en relation avec tout ce monde-là, premièrement. Mm-hmm. Et deuxièmement, on est habitué aussi à avoir un droit international.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Et comment ça s'organise? Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des...
Oui, bon. Très bien. Le lien avec le monde des agences, peut-être je donnerai d'abord l'exemple. Avant de dire ça, les agences autour dans l'univers des Nations Unies, l'aide internationale et ça, tout ça, c'est un univers qui existe. Après, dans le sport, le sport a reproduit en grande partie, exactement le même fonctionnement, mais en interne. C'est-à-dire les fédérations sportives qui génèrent évidemment beaucoup d'argent pour les plus grandes ont créé leurs propres agences internes de développement qui dépensent leur argent. Alors parfois, il y a des partenariats. Je sais que l'UEFA travaille parfois avec des agences humanitaires, par exemple, sur des camps de réfugiés. Donc là, il y aura des croisements. Il y a eu différents partenariats aussi avec Médecins sans frontières, des agences comme ça, où lorsqu'il y a volonté de faire un projet dans un lieu spécifique, la fédération sportive va dire « Ah ben tiens, on peut travailler ensemble avec telle ou telle agence ». Mais la grande majorité de l'action de développement de la fédération sportive, peu importe le sport, c'est un fonctionnement interne.
C'est deux mondes différents.
Donc, c'est vraiment deux mondes différents. En revanche, la passerelle intéressante, c'est que, en tout cas, je parle pour l'époque entre la fin des années 90 et 2015 pour la FIFA, presque tout le staff qui travaillait dans le développement du football, c'était des gens de la Croix-Rouge, en fait, qui ont été engagés par de la Croix-Rouge pour venir travailler dans le sport, parce qu'ils savaient ce que c'était le développement international. Et puis, on leur donnait juste un autre outil. On a dit, maintenant, vous faites de l'aide internationale à travers le sport. Donc, il y avait un lien de connaissance et de partage de connaissances assez important. Par rapport à ces deux univers qui normalement sinon sont séparés. La question du droit, c'est une excellente question habite beaucoup la réflexion de mes collègues juristes. Alors moi-même, je ne suis pas juriste, j'ai fait quelques études de droit par rapport au sport, mais la question juridique du sport, c'est une question extrêmement fondamentale et il n'existe pas de droit international du sport. Il n'existe pas, tout simplement. Il existe tout un code de réglementation des fédérations sportives qui servent de cadre juridique. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné très très rapidement au début. Mais il y a un tribunal international qui est censé traiter ces questions. Mais sauf que on n'a pas de droit international comme on a dans d'autres secteurs d'activité. Donc dans le sport, c'est compliqué. On invente des choses et on fait beaucoup sur la base de l'arbitrage, en fait. Essentiellement, ça, c'est la base juridique. Si je ne parle pas des contrats commerciaux dans le sport, la base juridique, ça va être le lien arbitral, en fait. Ça va être vraiment le domaine principal pour le droit. Si ça répond un peu à la question. Je ne sais pas si Gilles...
Oui, un aspect qui me vient à l'esprit, quand on regarde un peu cet univers sportif, les JO, les athlètes, on a assez spontanément quand même une vision un peu uniforme, dire c'est tous des champions, des athlètes, ils ont leur staff, ils ont tout ce qu'il faut en quelque sorte. Et je me souviens, je crois que c'était le précédent JO, je ne saurais plus dire de quel pays s'agissait, mais des athlètes qui disaient qu'en gros ils étaient logés dans trois fois rien, oui. Ils avaient à peine leur matériel basique, mm-hmm. Il y avait donc des inégalités phénoménales, mm-hmm. Et ça ressort peu. Alors est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas non plus un message à faire passer, quoi, parce que pareil, le rapport au sport dans un pays comme le nôtre, au niveau du sport professionnel, mm-hmm. Il y a plein de choses qui sont déployées, d'énormes moyens. On se met à la place de pays pauvres, hein, comme en Afrique, que j'ai pu connaître. Je me rappelle très très bien que c'était du domaine en Côte d'Ivoire. L'équipe de foot, elle avait perdu au retour. Ils avaient passé un temps dans un camp, hein, parce qu'on trouvait qu'ils n'avaient pas assez de milieux de maillot. Quoi, hein. Parce que les gens avaient payé, ils avaient cotisé pour que les joueurs puissent aller à cette compétition. Et voilà, il y avait un mécontentement. Donc, il y a des pays pauvres, il faut d'abord nourrir la population, il faut d'abord essayer de construire des écoles. Donc ça va être un peu sur le même registre. Quoi, hein.
Oui.
Est-ce que ça, je dirais, il y a un peu une prise de conscience? Est-ce qu'on essaie de faire ressortir? Est-ce qu'un discours qui est tenu par
le... Je crois que le déséquilibre, si je peux dire comme ça, entre les différentes réalités dans le sport, ça se voit dans le monde olympique avec les sports qui sont moins médiatisés. Et donc du coup, à part la petite fenêtre d'une fois tous les 4 ans où tout le monde regarde, et donc du coup ça génère beaucoup d'intérêt, c'est des sportifs qui pendant 4 ans rament à trouver un sponsor, à avoir une subvention, à avoir un statut professionnel de leur comité national olympique. C'est une réalité qui est préoccupante et qui est très différente des sports grands médiatiques qui ont une ligue professionnelle, etc., où on a l'impression que tout va très bien. Donc ça creuse une différence énorme. Moi, j'avais une étudiante il y a 7 ans chez nous qui était néo-zélandaise. Et elle est arrivée pour faire ses études après avoir essentiellement décidé de prendre sa retraite internationale. Elle était dans l'aviron, puis elle avait été championne du monde mais jamais championne olympique, et puis donc elle a arrêté après les Jeux olympiques de Londres en 2012, puis elle a fait ses études. Puis pendant ses études, elle a dit « Je veux vraiment me qualifier pour les prochains JO ». Et sa fédération, son comité national olympique et sa fédération néo-zélandaise, si vous voulez, mais alors vous allez au tournoi de qualification à vos propres frais, on vous aide pas. Alors elle se levait tous les matins à 5h du matin pour aller ramer dans la rivière à Leicester en Angleterre avec un courage énorme. Mais du coup, c'est une athlète de très très haut niveau. Mais alors en plus en Rio 2016, elle a fini 4e pour la deuxième fois, et puis à Tokyo en 2021, elle a été championne médaille d'or en aviron, mais c'est quelqu'un qui a dû vraiment tracer son propre chemin, parce que tellement l'inégalité entre les sports qui gagnent des sommes, et puis sa réalité à elle, c'est deux mondes complètement différents. Je ne sais pas si...
J'avais une petite question. Vous parliez tout à l'heure du droit.
Oui.
Il y a quand même actuellement la Russie qui est mise au banc.
Oui.
Donc à un moment, il y a quand même...
Oui, sauf que les jeunes peuvent jouer. C'est fascinant, ça. C'était la décision lundi de la semaine dernière, parce que c'est sorti quand j'étais en train de préparer mes cours et puis j'ai sorti ça, j'ai trouvé fascinant parce que là c'est aussi l'instrumentalisation du sport de la jeunesse que j'ai essayé de montrer un tout petit peu. La Russie, elle ne peut pas participer. Alors peut-être les athlètes participeront aux Jeux Olympiques en 2024 sous bannière neutre à titre individuel. Mais ce qu'a fait l'UEFA là, il y a 10 jours, c'est l'UEFA a dit alors on va quand même permettre aux équipes juniors, donc l'équipe nationale moins 17, à participer au tournoi international européen comme la Russie. Donc aux jeunes, on dit oui, vous pouvez. Donc il y a une manière d'utiliser le rapport à la jeunesse que je trouve un peu intéressante parce que d'un côté, on les inclut, mais en même temps, les premiers à être instrumentalisés de manière politique, la photo... la photo de 1977 où je vous ai montré, là, c'est la Russie politique, c'est l'Union soviétique qui gagne, c'est pas des jeunes, c'est vraiment une idéologie qui gagne. Donc il y a un rapport à la jeunesse, pour moi ça c'est un défi pastoral énorme. Donc je sais pas, je vous ai coupé un petit peu, mais
c'est ça. Ouais. Après il y a deux pays, hein, la Chine par exemple,
oui,
qui forme des sportifs,
tout à fait,
mais pas pour former des sportifs, on parle de l'homme et de la dignité, mais qui quand ils ont fini de servir, excusez-moi l'expression,
oui,
ils sont complètement oubliés,
complètement
comme l'Allemagne de l'Est,
voilà. Absolument. Mais oui, comment vous répondre, c'est je ne ferai pas non plus l'éloge du monde occidental dans ce sens que le monde occidental instrumentalise aussi beaucoup ses athlètes, surtout sur la plateforme des Jeux Olympiques et des Coupes du Monde, etc. Dès que l'enjeu de la nation se présente, ah ben, tout de suite les politiques se mettent, on va les utiliser. Voilà, ça reste... le lien politique et sport, je ne crois pas à la neutralité du sport. C'est quelque chose de... on aimerait bien, mais voilà.
Ça ne va pas avec la question de la place du sportif et la place de l'homme dans ça. Enfin, la question de la vulnérabilité, on a pu parler des abus aussi.
Oui.
Quand même des belles structures de péché là dans le football, il y a quand même Romain Rina qui essaie de dénoncer des trucs, c'est
oui,
pas facile
oui,
au niveau du droit. On parle de prostitution à très grosse échelle dans le domaine du foot,
tout à fait.
Les petits, tout le monde passe à la casserole, les mamans aussi, enfin oui. Tout y est pour faire le truc,
ouais, absolument.
Et pour sortir peut-être de la pauvreté, enfin c'est, je sais pas, c'est vraiment une question éthique qu'il y a à travailler parce que là les abus émergent d'affaires.
Ah oui, c'est ce qu'on exactement,
ça fait. Parce que c'est vraiment très très grosse échelle, c'est presque quasiment systématique.
Ah oui, absolument. C'est là où, en fait, je trouve que je devrais le dire plus fort dans le monde du sport, mais je trouve que l'exemple de l'Église, qui depuis quelques années, 5-10 ans, l'Église a demandé, l'Église de France, il y a eu le rapport de la CIAS l'année dernière, en Suisse est sorti il y a un mois un rapport similaire, et c'est qui a demandé ? C'est pas les victimes, c'est pas le gouvernement, c'est l'Église elle-même qui a dit on veut se regarder dans la glace, on veut vraiment faire l'autocritique et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et alors on tire beaucoup sur l'Église depuis longtemps sur ces questions-là, mais aussi parce qu'il y a une institution facile en face. Dans le sport, s'il y a un problème avec un club ou un entraîneur, mais il n'y a pas. Alors oui, vous pourriez écrire une lettre à la Fédération de sport ou à l'Union des entraîneurs, mais ça n'a pas le même... il n'y a pas de visage. Voyez, vous pouvez critiquer pour la question de la pédophilie, vous pouvez dire « Ah, mais c'est l'Église, c'est eux qui représentent tout ça. » Donc on peut s'attaquer à une institution. Et c'est là où je pense que c'est d'autant plus louable de la part de l'Église d'avoir initié ces questions-là. Parce que le sport ne le fait pas. Ça sort par les journalistes, ça sort par les victimes. Et encore aujourd'hui, les exemples que je vous ai donnés en gymnastique, en football, en patinage, je n'ai pas entendu jusqu'à ce jour une fédération sportive dire « On aimerait bien faire une enquête sur nous. » Alors, on va demander à des gens, on va livrer un peu nos PV de séance dont on publie jamais. Personne dans le monde du sport fait cette autocritique. Qu'a fait l'Église ? en fait. Ça, je trouve, là, en l'occurrence, c'est le monde du sport qui peut apprendre quelque chose de l'Église là-dessus.
Oui, ça, c'est bien parce que ça m'introduit un peu. Je pense que dans la liste que vous avez faite à droite, il y a des choses sur lesquelles, évidemment, on sait où on est et on sait ce qu'on défend. Il y en a d'autres, c'est peut-être moins évident. Et quand on regarde par exemple cette planche à droite, ouais. On n'est pas critique par rapport au sport. On dit le sport c'est formidable. Ouais. On sait très bien que dans le sport, il y a des choses qui ne sont pas du tout formidables. Mais justement, quelle est la parole critique qu'on a sur le sport ? Là on, au fond, que ce soit Jean-Paul II ou le pape François, on met l'accent sur tout ce qui est positif et le reste... On n'en parle pas. Et je me dis, dans cette liste, l'organisation pour le sportif ou sur le sportif, ben, on n'ouvre pas trop ce débat-là. Servir de maître, ce qui est le plus évident, le problème le plus criant dans un certain nombre de secteurs, en tout cas, on n'en parle pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, notre examen de conscience à faire sur le discours qu'on porte pour qu'il soit peut-être
Je veux bien répondre, parce que c'est peut-être un petit peu simplifier les discours des papes sur le sport. Il y a quand même pas mal de textes des papes qui évoquent notamment tous les aspects négatifs du sport. Le document « Donner le meilleur de soi-même » revient aussi sur ces éléments-là. Donc, il y a quand même une analyse critique qui est faite. On a eu notamment des déclarations de conférences épiscopales par rapport à certains sujets. On a eu notamment avec c'était la Coupe du Monde de foot en Allemagne sur l'afflux important de prostituées qui avait été condamné notamment par l'Église. Mais c'est souvent un peu entre guillemets, dans les médias, ces questions-là ne sont pas forcément abordées. Mais on a notre mission aussi dans l'Église, c'est justement de voir les aspects négatifs et de pouvoir donner des éléments, pas pour dire le dopage c'est mauvais, on sait que c'est mauvais, mais qu'est-ce que nous on peut apporter sur ces questions-là. Mais les papes ont toujours été lucides sur les aspects négatifs du sport aussi, et en ont parlé. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à plus valoriser, parce qu'en fait, souvent, les discours des papes, en grande partie, s'adressent à des athlètes, donc les encouragent, et notamment à être des modèles pour les jeunes. Mais il y a toujours, quand on regarde bien les textes, il y a toujours quelques points pour cibler les points négatifs et les points d'attention.
Bon, dans les ouvrages, bon, j'ai regardé hier, il y a plusieurs ouvrages conseil pontifical, où il y a effectivement pas mal d'analyses critiques sur tout un tas de dérives dans le sport. Qui sont c'est des réflexions de l'Église sur le côté obscur du sport.
Mais oui, j'imagine qu'il y a quand même un minimum de clairvoyance, c'est flagrant en plus. Donc, mais alors du coup, quel discours on porte vis-à-vis des clubs, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis comment est-ce qu'on montre aussi ça dans le discours continu?
C'est toute la question de comment être un missionnaire, je pense, finalement.
Ouais, c'est peut-être ça le vrai défi. Oui.
Parce que déjà de convaincre par son propre témoignage de ne pas participer à telle ou telle dérive, par exemple, ça interroge. Si un entraîneur dit « Ah mais non, je ne veux pas suivre cette logique-là », puis autour de lui, ses collègues, « Attendez, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Là, du coup, ça interroge. Mmh. Et lui, après, il peut dire « Ouais, mais non, je ne le fais pas parce que d'un point de vue éthique, pour moi, c'est pas juste. »
Vous donnez l'exemple des paris sportifs.
Oui, par exemple. Oui. Et puis Alain aussi. Bruno.
Est-ce que tu as des réponses ? Moi, je suis depuis l'actualité, je regarde de temps en temps les chaînes publiques. Le Qatar,
ouais.
Coupe du Monde de foot,
yes.
Championnat du Monde,
athlétisme,
ouais. Championnat du Monde de foot, et de handball. Qatar, PSG, Barcelone, ouais. Manchester. Ouais. Qu'est-ce que cherche le Qatar ensuite, les Émirats, je ne t'en parle pas. Ouais. Hein, et les Chinois, 5 clubs en France, de Ligue 1 à Ligue 2, ouais, tous les Chinois.
Tout à fait.
C'est-à-dire, est-ce que c'est mondialisé, c'est fait est-ce qu'il y a, quel est le but du Qatar des Émirats?
Donc, le but du Qatar, c'était de se donner... Déjà qu'on en parle, en fait. Parce qu'avant 2010, personne ne savait ce que c'était le Qatar. On ne s'intéressait pas. Donc, c'était d'abord d'exister dans un plan géopolitique dans leur région face à tous les autres régimes. Donc, c'était une campagne de pub, en grande partie. Et puis après, c'était aussi un mécanisme par lequel on voulait attirer du commerce international. Donc, on utilisait le sport pour accueillir des sportifs, pour attirer des entreprises, pour après faire du commerce international avec des entreprises qataries. C'est parce que le Qatar est dépendant du gaz. Et donc, du coup, c'était vraiment pour dire, mais est-ce qu'on peut vivre autrement? C'est un peu aussi la question que se pose l'Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est, nous sommes dépendants de notre économie du pétrole. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et donc, alors, le Qatar, ils ont réussi leur campagne de pub. Tout le monde les connaît. Et puis, aujourd'hui, ils continuent, ils font des choses. La Chine est plutôt un peu comme ça en ce moment, il me semble, d'un point de vue sportif. Même s'il y a la propriété, mais il y a aussi un désinvestissement de la part des Chinois dans beaucoup de secteurs au niveau du sport international. Mais à voir. Je ne sais pas s'il y avait un autre aspect de la question.
Non, c'est... Moi, je pense que c'est pris parce qu'il n'y a plus d'investisseurs européens réels. Le FC Sochaux, là.
Oui, Sochaux, c'est un bel exemple.
Il n'arrive pas à trouver un club local, plus long que c'est dans un gaz. On s'en abandonne des investissements à lieu pour des niveaux.
Tout à fait. Bon, après, c'est lorsque le produit a une telle valeur... Et du coup, il n'y a plus tout le monde en France qui peut se permettre d'acheter un club sportif. Le prix est... Aujourd'hui, la Premier League anglaise, il n'y a que un État souverain à travers son fonds public qui peut se permettre d'acheter un club, à part les trois autres milliardaires du monde. C'est parce que tellement ça vaut cher.
Et jusqu'à quelques heures, le vide... La Ligue 1 qui n'arrive pas à vendre.
Oui.
Il n'y a pas de réponse à ces gens-là.
Non.
On va vers un monde
étrange.
Qui va être étrange.
Oui.
C'est un monde. Quoi, ce monde-là, c'est quand même un monde. Comment dire, par rapport au sport, c'est le monde médiatisé, le sport de haut niveau. C'est 0,1% d'une classe d'âge.
Tout à fait.
Des gamins qui vont faire un match intéressant. Ouais. Tout le reste, c'est quand même pas ça. Hein.
Non, tout à fait. Alain, je
sais. Je vais dire plusieurs choses. Donc, la première, là, ce que tu as soulevé comme question, c'est hyper, hyper important. Ce matin, j'ai rappelé que y a l'Église du sport catholique qui pilote la coordination de tous les phénomènes de trait des êtres humains. Elle demande à participer aux choses là, pour les JO et compagnie. Il faut qu'on enregistre ça. Il existe aussi des forces sur le terrain.
Tout à fait.
Pour faire prendre conscience de choses, avoir des outils. Il y a des outils, il y a des gens qui sont faits. La deuxième chose, c'est que, par les fonctions que j'ai eues, j'ai écouté beaucoup, et encore aujourd'hui, de géostratégie politique, forcément. Juste un petit truc pour vous faire prendre conscience des choses. Les Israéliens ont une boîte qui s'appelle NSO, qui a produit un logiciel qui s'appelle Pegasus.
Oui, Pegasus, absolument.
Ce logiciel Pegasus permet de pénétrer dans vos téléphones sans laisser de traces pratiquement. Il faut des mecs hyper performants pour les repérer. Les services Pegasus ont été vendus à un certain nombre d'États qui sont des dictatures. Les services secrets marocains ont réussi à avoir le téléphone de Macron et de 14 ministres. C'est pour ça qu'il y a des relations assez froides entre le Maroc et la France. Hein. Mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi des boîtes privées. Ça va très très loin, ça va. Ça va très 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 loin. Et il faut vraiment prendre conscience de ces phénomènes-là. Et quand tu parlais du Qatar, le Qatar a aussi essayé d'influencer dans les institutions européennes.
Tout à fait. La Commission européenne, le Parlement.
Pour influencer, pour certaines décisions, pour se mettre dans la poche un certain nombre de politiciens qui sont corrompus par le fait. Donc il faut avoir aussi, c'est pas que le domaine du sport, faut que le sport est aussi, dans toute la palette de ce genre d'intervention, est aussi une entrée possible. Une autre question que je me pose, c'est toute l'organisation du sport que tu nous as dit, que ce soit avant privatisation ou avec le fait de privatisation maintenant, est-ce que c'est pas quelque chose qui est tout à fait occidental? Et je me pose la question, comment ça se passe avec les Chinois, des Thaïs, des gens du Mozambique, tu vois ce que je veux dire, des façons de s'organiser qui sont d'autres visions de la société, ça pénètre le sport, ou est-ce que les institutions internationales finalement sont très occidentalisées? Donc ça, c'est une deuxième question. Et une troisième question, c'est le rôle des armées. Parce que, ça, je crois que ça dépend beaucoup des pays, le rapport sport-armée dans un certain nombre de pays, c'est un rapport où l'armée prend le contrôle de beaucoup de choses. Donc ça, en même temps, les armées peuvent aussi rendre des services importants pour aider des gens à se mettre au sport. Hein. C'est pas une vision tout noir, tout blanc. Hein. Juste pour vous donner une idée, si je me transporte dans le domaine des technologies du numérique, puisqu'on a beaucoup travaillé ça à la conférence et pas seulement, si vous regardez l'État israélien, la majorité, enfin, les choses les plus importantes des phénomènes numériques sont pratiquement toujours passées par l'armée. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des réflexions sur ces points-là.
C'est vraiment
superbe. La question de la nature de la culture occidentale de ces instances, absolument. C'est quelque chose qui a ses origines en Europe, dans un monde différent. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais l'année dernière avec un collègue que j'invite dans mes cours, qui a été un peu partout dans le monde du sport. C'est quelqu'un avec une expérience exceptionnelle. Et puis, à un moment donné, pendant un de ses mandats, il était engagé par la Fédération chinoise de football et la Confédération asiatique pour aller les aider à développer en Chine comment faire. Et ils ont fait trois jours d'atelier avec les clubs, les associations régionales chinoises pour discuter comment développer le sport. Et donc, ils ont expliqué, voilà, et puis ils ont parlé de cette structure. Quelque part, ils ont dit, voilà, vous créez des clubs, les gens, ils vont faire des clubs, ils vont s'organiser avec des ligues, des compétitions, etc. Et le Chinois lui disait, mais vous savez, nous, parce que après 14 ans, il n'y a plus personne qui participe au sport dans un club. Après, c'est fini en Chine. Et du coup, le collègue lui disait, mais pourquoi est-ce que les gens ne créent pas de club? Alors, le Chinois était très embêté, il a dit, bah, écoutez, chez nous, on n'a pas cette culture de libre association. Si l'État et le parti ne nous disent pas qu'on doit organiser quelque chose, l'individu ne le fait pas. Donc, clairement, cette logique-là, c'est une logique occidentale qui est liée à toute la tradition démocratique de la société civile, qui ne peut pas être reproduite de la même manière partout dans le monde. Et ça m'avait tellement frappé quand il a raconté ça, qu'en Chine, voilà, les individus ne vont pas forcément naturellement se mettre ensemble en association, créer un club pour faire ça. Ça ne se fait pas. Ça va être dicté depuis plus haut. Et donc ça, il y a clairement une vision comment développer le sport, alors on peut rajouter des éléments pastoraux après par-dessus. Pour revenir sur le point sur les armées, par les différents programmes de formation continue auxquels j'ai participé depuis des années, j'ai eu assez de contacts avec des fédérations, notamment football, en Afrique, en Asie, et j'étais sidéré du nombre de représentants président de fédération de ces régions-là, qui sont tous des généraux, tous militaires. Et le lien entre sport institutionnel, donc c'est-à-dire sous le ministère du sport national de tel pays en Afrique ou sous le ministère du sport en Thaïlande, c'est le général qui est le président de la fédération. Et donc il y a un lien de proximité. Je ne vais pas dire proximité, c'est les deux qui coexistent. Ce qui n'est pas forcément le cas. Dans le monde occidental où on a souvent quand même une séparation. Le sport fait partie de ces secteurs privés, de vie publique, mais on n'est pas mélangé à l'armée, alors que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ça répond un petit peu pour
alors, ces deux peut-être points. S'arrêter là, parce qu'on pourrait encore discuter longtemps.
Mais il y a plein d'enjeux. Il y en a un qui n'est pas.
Oui, bon, il y en a plein qui ne sont pas. Mais...
C'est la technologie et la virtualité. Ayant fait du handball à aussi haut niveau, le gardien de handball analyse le tireur sur un match ou
où est-ce qu'il tire,
etc. Aujourd'hui, bon, j'avais un colocataire qui était analyste vidéo pour un club de rugby très connu qui n'est pas de Clermont. On lui a demandé de créer un logiciel pour les joueurs pour leur indiquer qu'il fallait taper à chaque match. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est oreillette, etc. Donc ça désincarne le sport.
Ah, complètement.
Parce que très clairement, moi je coach une équipe de hand, je sais que même mon président, c'est un petit club, il me dit il faut faire des vidéos. Ça désincarne totalement la relation et la dimension qu'il y a. Les joueurs de rugby, par exemple, on en parlera tout à l'heure, ils ont une puce.
Oui.
Pucée, en fait.
Oui, pour observer leur performance, mesurer tout, absolument.
Alors qu'on les connaît.
Oui. Oui, mais c'est une question de... Alors...
C'est d'analyser la performance, en fait, ça pose problème, ça.
Non, je ne dis pas que ça pose problème, mais...
Alors, je n'ai pas dit que ça pose problème, j'ai dit qu'à des moments, ça peut être...
Il y a un enjeu aussi sur la question des données privées, Alors, parce que là, on est sur la question de santé. Si l'on vous dit... non, demain, vous ne travaillez pas parce que j'ai observé, vous êtes resté tard hier soir, vous n'avez pas dormi assez et votre boss vous appelle et vous dit « Ah non, vous ne travaillez pas ». C'est aussi un peu… Alors, c'est comme ça que ça se passe presque dans le sport. Je rajouterais peut-être juste…
C'est très utilisé pour analyser la performance.
Oui, mais…
Après, il peut y avoir des délais. C'est avant tout utilisé pour analyser la performance.
Tout à fait. J'introduirais juste peut-être… Ça, c'est le dernier truc pour finir.
C'est la question de l'objectivité.
L'objectivité.
Voilà, de…
Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un être humain?
Je pourrais donner mes cours. C'est exactement ce que j'essaie de dire à mes étudiants. Qu'est-ce que c'est le but du sport? Mais pour juste répondre à ce point, est-ce que ça enlève tout aspect humain? Je ne suis pas sûr. L'exemple qui me parle le plus par rapport à ça, c'est la victoire en première ligue de Leicester en 2016, qui a été une surprise pour le monde du football et le monde du sport, parce que c'était un tout petit club qui avait pas les moyens, qui s'est appuyé énormément sur la technologie. Alors c'est un des premiers clubs à utiliser les analyses à pousser à ce point-là. Et j'ai pu rencontrer en fait le responsable de l'analyste du sport à l'époque, parce qu'il était venu aussi à nos cours. Participer, et c'était étonnant parce que à la fois il y avait l'aspect technologique qui était prépondérant, mais ça ne suffisait pas. Et si vous parlez un peu au questionner des gens là, l'entraîneur à l'époque, il avait accentué vraiment sur le relationnel de ses joueurs. Ils sortaient au restaurant chaque semaine ensemble. Lui, il invitait ses joueurs à manger au restaurant dans une pizzeria à Leicester où j'amène mes étudiants de temps en temps, et c'était de la vie vraiment. Alors toutes les bases de l'entraîneur de base, de créer une cohésion de groupe, l'unité, du respect, du lien, c'était absolument essentiel. La technologie ne suffisait pas. Et donc du coup, je pense que la technologie, elle peut être un danger, mais...
Il y a un contre-exemple en France, le TFC,
oui,
qui en fait base sur des informations de données sur des joueurs. Ils ont gagné la Coupe de France.
Tout à fait,
contre moi. Ils en ont vendu plein. Et il y a un film avec Brad Pitt qui parle de ça sur le baseball.
Oui, oui, le Moneyball, absolument. Je connais très bien. Mais bon, c'est comme tout aspect, il y a toujours ces choses en tension.